France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la dissolution de juin 2024, second volet, l'aftershock. C'est l'histoire d'un étrange pari lancé par un président insaisissable, plus illisible que mystérieux. Le 9 juin 2024, Emmanuel Macron prend de court ses amis, ses ennemis et tout le pays. Il annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Trois semaines plus tard, la grenade jetée depuis l'Élysée explose. Lors des législatives, la gauche coiffe au poteau le Rassemblement national et le Bloc central. Mais aucune majorité claire ne se dessine. Alors, qui choisir comme Premier ministre ? Dans toute démocratie parlementaire, et la Ve République l'est aussi, on le verra, le réflexe légitime dans ce cas, c'est de confier le gouvernement au parti arrivé en tête des élections. Mais non, le président décide de jouer la montre en s'appuyant sur un événement d'envergure internationale, les Jeux Olympiques. En tout, ce sont 2 mois de vacances du pouvoir, et à la clé, la nomination d'un conservateur ressorti de la France d'hier pour un destin sans lendemain, Michel Barnier. Une situation qui angoisse les Français, mais qui marque aussi le retour de la politique. Pour le meilleur ou pour le pire, c'est selon. Notre invité aujourd'hui, Jean Garrigue, historien, spécialiste de la Ve République, co-auteur du documentaire Dissolution, l'histoire d'un séisme politique. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Guillaume Malandras, coordination Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Donnante. Réalisation, Frédéric Milano.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Bonjour messieurs, dames. On vient vous voir après. On va voter, on arrive.
Dimanche 30 juin 2024, le Touquet. Engoncé dans un gilet pare-balles, recouvert d'un blouson de cuir aviateur, à Ray-Ban à la Tom Cruise, Emmanuel Macron marche nerveusement dans les rues du centre-ville. Encadré par ses gardes du corps et sa femme Brigitte, entièrement vêtue de noir, il salue les passants comme une star en vacances. Malgré le sourire de façade, la journée est un peu spéciale. Aujourd'hui se tient le scrutin du premier tour des élections législatives et comme n'importe quel citoyen, le président vient tout juste de glisser un bulletin dans l'urne.
Merci, hein. Merci à nos gens. Merci les gars d'être là. Vous allez bien ?
Alors, à quoi pense-t-il dans les rues du Touquet, Emmanuel Macron ? 3 semaines déjà qu'il a surpris le pays en annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale. Cette décision, cette grenade dégoupillée dans les jambes de ses adversaires, d'après ses propres termes, il l'a mûrissé depuis des mois avec ses conseillers de l'ombre, un petit groupe qu'on appelle les mousquetaires. Pourtant, force est de constater qu'elle n'a pas eu l'effet escompté. Au sein de la majorité, hormis ce premier cercle et le président du Modem, François Bayrou, ils sont peu nombreux à comprendre l'intérêt de la manœuvre. Pire encore, du côté des oppositions, tout le monde s'est mis en ordre de marche. En quelques heures, les différents partis de gauche se sont unis pour proposer des listes communes sous la bannière du nouveau Front populaire. Alors, quand les premiers résultats tombent, à 20h, les craintes se confirment pour le président. Le Rassemblement national caracole en tête avec 33% des voix, suivi de près par le nouveau Front populaire, 28%. L'ancienne majorité, elle, est à la peine. Avec 20%, elle n'a aucune chance de se reformer. C'est comme si la grenade lancée par Macron avait roulé entre les jambes de la droite et de la gauche pour s'arrêter devant ses petits camarades.
Il est 20h, regardez nos premières estimations. Le Rassemblement national et ses alliés obtiendraient 34,2% des voix, suivi du nouveau Front populaire, 29,1% des suffrages. Le camp présidentiel, ensemble, obtiendrait en troisième position 21,5% des voix.
Les Républicains, les divers droites, obtiendraient 10% des voix, l'extrême gauche 1,3% et les autres partis, les divers partis, 3,3%.
De retour à l'Élysée, le président analyse les résultats avec ses lieutenants. De ce premier tour, on retient 2 leçons. Le pari originel que la gauche n'aurait pas le temps de s'unir est perdu. Et le Rassemblement national semble aux portes du pouvoir. Pourtant, Jupiter est imperturbable. Comme toujours, il continue de croire en sa bonne étoile. Bien. Mais quelle stratégie adopter pour le deuxième tour ? En fin de journée, Emmanuel Macron reçoit les chefs des partis de la coalition centrale, François Bayrou, Stéphane Séjourné et Édouard Philippe, en visio depuis Le Havre. Face à la menace du RN, tous appellent à la constitution de ce qu'on appelle un front républicain. Mais faut-il intégrer ou non sa branche turbulente, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, jugée infréquentable ? La question est loin d'être anodine. Du fait de la participation élevée, on dénombre 307 triangulaires, des seconds tours à trois têtes qui, on le sait, peuvent arranger le RN. Alors, faut-il retirer ses candidats dans les circonscriptions où LFI pourrait l'emporter ? Pour Édouard Philippe, c'est hors de question.
Je considère par conséquent qu'aucune voix ne doit se porter sur les candidats du Rassemblement national, ni sur ceux de la France insoumise, avec lesquels nous divergeons non pas seulement sur des programmes, mais sur des valeurs fondamentales.
Pour l'homme du en même temps, c'est plus compliqué. Certes, Emmanuel Macron ne veut pas donner l'impression de soutenir le moindre mélenchoniste. Mais la réalité arithmétique du scrutin est encore pleine d'incertitudes. D'après les dernières estimations, la majorité absolue pour le parti de Marine Le Pen pourrait se jouer à 10 voix près. Cela veut dire que si on veut les empêcher d'avoir tous les pouvoirs à l'Assemblée, on ne peut pas se payer le luxe d'appeler en bloc à voter contre LFI. Pour les centristes, c'est un peu le choix entre la peste et le choléra. Vive la dissolution. Pour le président, la soirée se poursuit dans les jardins du palais en compagnie de ses proches. Son épouse Brigitte, bien sûr, Richard Ferrand, mais surtout deux des artisans de la dissolution, Clément Leonarduzzi et Jonathan Guémas. Sous les parasols blancs, autour d'une table bien garnie, le petit groupe jette les bases d'une communication sur le fil presque ambiguë, à la fois résolument contre le RN et LFI, mais sans les renvoyer dos à dos. Le RN, on le combat, LFI, on ne vote pas pour elle. Nuance, exprimée ici par le ministre de l'économie et romancier, Bruno Le Maire.
Je combats le Rassemblement national, mais je ne vote pas pour la France insoumise. Je ne vote pas pour la France insoumise parce que la France insoumise a pris des positions qui sont contre la nation française.
Donc un député LFI est aussi dangereux qu'un député RN pour vous ?
Je ne mets jamais de signe égal entre la France insoumise et le Rassemblement national. Je pense que c'est un raccourci qui ne tient pas compte ni de l'histoire, ni de la mémoire, ni des individus. Mais je redis que pour moi, la France insoumise est un danger pour la nation. Le Rassemblement national est un danger pour la République. On ne choisit pas un danger au profit d'un autre.
Mais dans la rue, l'heure n'est pas au petit calcul d'apothicaire. Réunis spontanément en place de la République, de nombreux Parisiens battent le pavé pour crier leur rejet du Rassemblement national.
Pour une histoire comme celle de la France, c'est abominable. C'est ce qui pouvait lui arriver de pire ce soir.
Vous attendiez un tel résultat ?
Non, je m'attendais à un résultat un peu moins pire parce qu'il y avait un sursaut d'inscription. Donc je m'étais dit, ce sont les jeunes, et les jeunes, a priori, vont voter à gauche, mais pas du tout.
On va venir chaque soir ici, on va se battre, on va manifester, on va se rassembler et on va tout faire pour que le RN n'ait pas la majorité absolue le 7.
Dans la semaine qui suit, certains dirigeants rejoignent au mouvement. Mais quand arrive le 7 juillet, jour du deuxième tour, surprise. Entre les jeux d'alliance, les désistements et le sursaut d'une partie des électeurs, ce n'est pas le Rassemblement national qui arrive en tête. Mais la gauche, mais oui, sous les couleurs du nouveau Front populaire.
Plus que quelques secondes avant cette première estimation de notre partenaire Ipsos Talent, il est 20h et on découvre la nouvelle assemblée. Et ce n'est pas le tiercé qui était attendu à l'issue du premier tour. C'est d'abord la gauche, le nouveau Front populaire qui arrive en tête avec 172 à 192 sièges.
Dans les rues des grandes villes, comme Paris, bastion historique de la gauche, on respire, on s'embrasse, on célèbre. Des scènes de liesse qui font le tour des télés. Loin du tumulte de la place de la République, sur la terrasse de l'Élysée, Emmanuel Macron suit la soirée électorale avec son clan. Fidèle à ses habitudes, il refuse de croire qu'il a pris une mauvaise décision. « Pourquoi voulez-vous que j'aille mal ?» dit-il, avant de poursuivre. « Nos idées continuent d'être là et n'ont pas moins de votants. » Il faut maintenant apaiser le pays, laisser les choses s'organiser à l'Assemblée. Mais la réalité est tout autre. Les résultats ont tout du casse-tête pour le président. Avec 193 sièges, le nouveau Front populaire arrive en tête, sans pour autant obtenir de majorité. Devant le bloc central, avec 164 sièges, puis le Rassemblement national qui plafonne à 143. C'est une situation inédite dans l'histoire de la 5e. Les travaux du Palais Bourbon sont désormais divisés en trois blocs et aucun n'a de majorité pour gouverner. D'un seul coup, nous passons à un régime qui n'est pas du tout dans notre culture, d'où les craintes de blocage institutionnel, car on ne sait pas faire, contrairement à nos voisins européens. Dans cet étrange contexte, qui choisir comme Premier ministre ? Face au grand écran installé sur la terrasse, le clan Macron écoute un Jean-Luc Mélenchon revendiquer la victoire sur un ton qui fleure bon les habitudes de la cinquième, qui pourtant vient de changer de nature.
Avec ces bulletins de vote, une majorité a fait un autre choix pour le pays. Le nouveau Front populaire appliquera son programme. Rien que son programme, mais tout son programme.
À côté du président, les stratèges de l'Élysée hésitent. Certains parient déjà sur un éclatement rapide du NFP entre ces différentes tendances, tandis que d'autres sont plus sceptiques. Après tout, pourquoi ne pas laisser Matignon à la gauche ? Sans vraie majorité, elle ne pourra pas aller loin. Dans la nuit, Emmanuel Macron laisse infuser ce scénario. Il convoque quelques visiteurs de gauche pour sonder leurs intentions. Plusieurs noms sont lancés, comme Boris Ballot, un ancien camarade du président Aléna, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, ou encore Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre de François Hollande. Le chef de l'État fait la moue. Avant d'en arriver là, d'autres hypothèses sont possibles, pense-t-il. Mais il n'est pas le seul à arpenter l'Élysée au cœur de la nuit. Dans une aile du palais, un autre homme ne compte pas ses heures, Alexis Kohler. Malgré le désaccord sur la dissolution et son inimitié grandissante pour le premier cercle de conseillers, l'implacable secrétaire général a décidé de rester. « Il a encore besoin de moi », glisse-t-il à un confident. Et jusqu'au petit matin, il planche sur la séquence à venir, car il sait que la partie ne s'est pas arrêtée avec les résultats. Et très vite, une stratégie est décidée. Attendre. Après tout, les JO doivent s'ouvrir dans 3 semaines et avec eux une trêve estivale qui tombe à pic. Ainsi, Emmanuel Macron pourrait reprendre la main. Celui que certains appellent le maître des horloges sait que le temps est parfois le meilleur allié du politique. D'ailleurs, avant de désigner un Premier ministre, il y a une échéance cruciale qui pourrait tout changer. L'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale. Prévu pour le 18 juillet, ce vote sera un indicateur parfait du nouveau rapport de force dans l'hémicycle. Si le bloc central l'emporte, cela montrera aux Français qu'il existe une majorité alternative au nouveau Front populaire. Le lendemain des résultats, le 8 juillet, Emmanuel Macron convoque à l'Élysée les chefs de parti de son ancienne majorité. Édouard Philippe, Stéphane Séjourné, François Bayrou et Gabriel Attal. Dans le très cossu Salon Vert, il affiche clairement son ambition. Faire réélire Yael Braun-Pivet au perchoir. Certes, il ne l'a jamais portée dans son cœur, mais elle est sa meilleure chance. Si elle passe, une fenêtre peut s'ouvrir pour le centre. Dans les jours qui suivent, c'est une véritable partie de chasse qui s'organise. Entre les députés non inscrits et surtout la cinquantaine d'élus des Républicains, les barons de la Macronie font leur possible pour pousser leur candidate. Et ça paye. Le 18 juillet, jour du vote, une majorité de circonstances surprend l'hémicycle.
Voici le résultat du troisième tour du scrutin pour l'élection du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale. Nombre de votants, 572. Bulletin blanc ou nul, 3. Suffrage exprimé, 569. Ont obtenu Madame Yael Braun-Pivet, 220 voix. Madame Yael Braun-Pivet ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, je la proclame présidente de l'Assemblée nationale et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel.
Pour Emmanuel Macron et les siens, c'est une première victoire. Avec le maintien de Yael Braun-Pivet, ses soutiens ont coupé l'herbe sous le pied du RN et de la gauche. Et puis surtout, cette manœuvre redonne un espace à un parti en crise depuis des années, les Républicains. Avec leurs 47 sièges, ils ont le pouvoir de faire pencher la balance ou non du côté de l'ancienne majorité présidentielle. Seul dans sa forteresse, avec son premier cercle, Emmanuel Macron affiche une mine détendue. On les a bien retournés, glisse-t-il. De son côté, Jonathan Guémas continue d'abreuver la presse de formules inspirées de grands philosophes, dissertant sur ce qu'il appelle le tapis affectif du président face à ses concitoyens. Il n'est pas le seul. Euphorique, Bruno Roger Petit compare même la dissolution à la fête de la Fédération de 1790 sous Louis XVI. Envoyé au purgatoire après avoir fanfaronné sur son rôle dans toute la séquence, le conseiller mémoire fait son possible pour retrouver les faveurs du monarque. Même Alexis Kohler s'en étonne. On lui a coupé l'eau et l'électricité, mais il est toujours là, dit-il à l'un de ses proches. Et pour afficher son allégeance, l'ancien journaliste porte parfois son attention sur les chiens présidentiels. C'est ainsi qu'un invité de passage assiste à une scène digne des meilleurs satiristes de la cour du roi, brune, rouge et petit, à quatre pattes dans un salon de l'Élysée qui joue avec l'un des labradors. Derrière cette mise au banc et ses rituels de prosternation, se trouve inscrit tout le rapport qu'entretient le chef de l'État à la lumière, cette volonté farouche d'occuper seul le devant de la scène. Comme le raconte l'un de ses anciens lieutenants, cela instaure un lien quasi canin avec les autres, qu'il pourrait anéantir d'un simple revers de la main. La façon dont il joue de la souffrance qu'il engendre maintient chacun dans un rapport violent et sadique, qui suscite à la fois la peur et la dépendance, c'est un truc d'empereur romain. Drôle d'ambiance au palais, entre les conseillers terrifiés et les députés qui n'ont plus confiance, et alors que le pays entre dans une période d'incertitude avec un parlement fracturé, le président continue de faire comme si tout était normal, mettant à rude épreuve les nerfs des Français. Et ça va durer un temps infini, sous le regard de François Hollande, de Jean-Luc Mélenchon et d'Édouard Philippe.
Si le but de la dissolution était la clarification, alors le résultat obtenu est tout à fait contraire à l'intention initiale, puisqu'il n'y a pas eu clarification, il y a eu encore plus grande confusion avec une Assemblée nationale qui n'a pas de majorité.
Bon, on a gagné. Est-ce qu'on a la majorité absolue ou pas ? Bon, pardon de vous dire que si la droite et le centre avaient voté comme ont voté les insoumis, eh bien, on avait la majorité.
Peut-être 20 ou 25 minutes après Mélenchon, j'ai dit que l'Assemblée, telle qu'elle résultait, était ingouvernable.
Écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la dissolution de juin 2024.
France Inter, Affaires Sensibles.
Mesdames et messieurs, le président de la République française, Emmanuel Macron. accompagné du président du Comité international olympique, Thomas Barr, champion olympique d'escrime 1976.
Ladies and gentlemen, the President of the French Republic, Emmanuel Macron, accompanied by the President of the International Olympic Committee, Thomas Barr, Olympic champion fencing 1976.
Paris, 26 juillet 2024. Voilà, il a enfin quitté le 8e arrondissement. Oh, pas pour nommer un Premier ministre, non, il a mieux à faire. Les Jeux Olympiques s'ouvrent aujourd'hui à Paris. Emmanuel Macron affiche le sourire le plus large du président qui adore les célébrations. Le prestige en monde de l'Eurovision, genre Paris, la France, le centre du monde. Mais l'autosatisfaction nourrie par l'organisation des JO jusqu'à l'indigestion n'efface pas la question posée deux semaines plus tôt dans les urnes. Qui choisir comme Premier ministre alors que l'Assemblée est coupée en trois? En réalité, la logique des institutions est claire. Le président doit désigner un ou une première ministre issue de la formation arrivée en tête. Or, si l'on s'en tient à l'arithmétique des résultats, c'est bien la gauche qui obtient le plus grand nombre de sièges. D'ailleurs, ses dirigeants viennent tout juste de dévoiler leur candidate, une certaine Lucie Casté, qui croit dur comme fer, qui s'y voit même. Interrogé par Thomas Otto, Emmanuel Macron botte en touche. Il en profite même pour prendre une nouvelle fois tout le monde au court.
Ce soir, le nouveau Front populaire que vous évoquiez, qui a donc un programme, qui a donc une candidate depuis ce soir, qui s'appelle Lucie Casté. Est-ce que vous allez l'appeler demain pour lui dire « Venez me voir, on va voir si vous pouvez composer un gouvernement ».
Le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas. Non, le sujet n'est pas un nom donné par une formation politique. L'exemple que nous venons d'avoir avec M. Chassaigne, d'ailleurs, dit tout cela. C'est un candidat tout à fait estimable, expérimenté, et il n'a pas eu la majorité, il n'a pas été élu au perchoir. Et donc, la question n'est pas un nom, la question c'est quelle majorité peut se dégager à l'Assemblée pour que un gouvernement de la France puisse passer des réformes, passer un budget et faire avancer le pays.
Voilà, pas avant la rentrée. Les JO d'abord et avant tout. Donner au monde l'image d'un pays qui va bien. Genre, même pas mal. Une trêve olympique décrétée par un homme seul, en dehors de toutes les traditions de la Ve République. Dans les jours qui suivent, on voit le président arpenter les tribunes d'un match de basket ou s'époumoner devant un terrain de badminton en compagnie de Brigitte ou de ses fidèles lieutenants. La croisière s'amuse. Pourtant, derrière les photos en noir et blanc du supporter enthousiaste, soigneusement sélectionné par sa photographe officielle, il semble bien seul, Emmanuel Macron. Souvent hué, il limite de plus en plus les bains de foule et les rencontres spontanées, au point qu'il doit se rendre à l'évidence, la lune de miel avec les Français est bel et bien terminée. Au crépuscule de son deuxième mandat, Emmanuel Macron est l'un des présidents les plus impopulaires de la Ve République. Depuis Jacques Chirac et les grandes grèves de 95, on n'avait jamais vu ça. Les enquêtes menées après la dissolution montrent un homme jugé imprévisible, voire anxiogène et dangereux. Face à ce désamour, l'intéressé continue de sourire. Mais en privé, il s'isole, il s'enferme, il verrouille. Depuis la dissolution, un cap semble avoir été franchi. Même sa femme Brigitte, même le fidèle d'entre les fidèles Alexis Kohler s'en inquiète. Il n'écoute plus personne, confie son épouse à plusieurs interlocuteurs. Sur son visage, le poids de cette année de pouvoir se fait sentir. Les patons blanchis, les rides se sont creusées et la posture s'est raidie. Tout son corps s'est transformé. Giscard, élu jeune, lui aussi, avait connu le même syndrome, allant jusqu'à dire « je me suis enlaidi ». Le soir, à l'Élysée, après avoir assisté à un match de beach volley ou un combat d'escrime, Emmanuel Macron cogne des heures sur son punching ball avant de retourner à son bureau. Parfois, il y travaille une nuit entière, persuadé d'être protégé par sa bonne étoile. « On va reprendre la main », confie-t-il revanchard à un visiteur du soir. Pourtant, cette dissolution a tout changé. Après 7 ans de repli de la vie politique en France, des ministres dont on ne retient même pas le nom, les partis traditionnels viennent de reprendre des couleurs. Et Renaissance, le vaisseau amiral de l'ancienne majorité, devient coquille vide, sans réelle assise territoriale. Après 2 mois de trêve olympique, il n'est plus possible de jouer la montre. Le 23 août 2024, Emmanuel Macron décide de recevoir à l'Élysée Lucie Casté et les chefs de file de la gauche. Dans le salon des ambassadeurs, il se retrouve seul face à 13 dirigeants remontés comme des pendules. Lucie Casté raconte la scène.
Quand il me reçoit avec les partis du Nouveau Front Populaire, la discussion est extrêmement courtoise. Je parle, lui prend des notes. Et après, s'ensuit un échange de 30 minutes à bâton rompu entre lui et moi, où il me pose beaucoup de questions, des questions très techniques, des questions de fond. Je lui pose aussi des questions, parfois je lui retourne sa question, notamment sur la question budgétaire. Et ensuite, les membres des partis autour de la table échangent eux également avec leur président d'une manière aussi très, très franche. J'ai notamment le souvenir de Fabien Roussel qui dit « Mais monsieur le président, avez-vous entendu ce message des Français ?» Et le président de la République dit « Oui, je l'ai entendu ». Ça n'a pas eu beaucoup de conséquences pour la suite, mais il l'a tout de même reconnu.
Espoir ou enfumage ? Le lendemain, le président met fin au suspense et rend son verdict implacable.
Bonsoir à toutes et à tous. Emmanuel Macron a tranché. Il n'y aura pas de gouvernement du nouveau Front populaire qui serait immédiatement censuré. D'après les termes du communiqué de l'Élysée, le chef de l'État qui invite les responsables de parti à de nouvelles consultations dès demain.
En gros, vous vouliez gouverner, fallait pas arriver premier. Résultat, 54 jours après le deuxième tour des élections législatives, le pays n'a toujours pas de Premier ministre. La présidence verticale semble avoir bien du mal à plier devant le poids des urnes. En réalité, derrière ce choix, Emmanuel Macron montre son obsession, rester au centre du jeu. Le vote du budget qui se profile fait peur à tout le monde. S'il est retoqué par l'Union européenne, la France pourrait voir la confiance des marchés se dégrader et son économie plonger. Pour l'Élysée, la ligne de crête est fragile. À Matignon, il faut une personnalité à la fois rassembleuse et proche de ses idées, mais pas trop. De cette façon, en cas d'échec, le fusible de Matignon pourrait sauter sans trop éclabousser l'Élysée. Après le simulacre Lucie Castet, la valse des premiers ministrables continue. Les républicains Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand ou encore le syndicaliste Laurent Berger de la CFDT. Début septembre, tous défilent au palais face à un président plus isolé que jamais. Et bientôt, un autre nom se distingue, celui d'un baron socialiste plus proche du centre européiste que des énervés de LFI, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Convoqué à son tour à l'Élysée, il coche toutes les cases pour le clan Macron. Socialiste allergique à Mélenchon, réformiste au bilan défendu par une partie du centre, le maire de Cherbourg semble en bonne position. Lui aussi raconte son entretien avec Emmanuel Macron.
Je conduis l'entretien en disant très simplement ce que je pense de la situation et ce qui me paraît relever de l'intérêt du pays, c'est-à-dire essayer de tenir compte absolument du résultat du scrutin. Je pense que si les socialistes, mais la direction du Parti socialiste et quelques-uns de ses affidés, souvent dociles, pas toujours francs du collier, s'étaient comportés autrement, le président de la République n'aurait pas eu la marge de manœuvre dont il a disposé.
Sauf qu'une instance bloque le Parti socialiste d'Olivier Faure. Trop loin des idées du nouveau Front populaire et surtout de LFI, Bernard Cazeneuve semble illégitime pour une bonne partie des députés de gauche nouvellement élus. Autrement dit, retour à la case départ. Peu à peu, une idée fait son chemin dans la tête du président. Pourquoi ne pas désigner notre personnalité de droite ? Retour aux sources de la pensée centriste, c'est un continuum. Après tout, si on les regroupe tous, du Rassemblement national jusqu'au centre libéral, ils représentent une bonne majorité de l'hémicycle. Pour préparer le terrain et s'assurer que les députés RN ne censurent pas le futur gouvernement au moindre travers, le président convoque donc Marine Le Pen et Jordan Bardella. Leurs conditions recoupent les grandes lignes de leur programme. Immigration, insécurité, mode de scrutin. Si le futur gouvernement respecte ces lignes rouges, disent-ils, et si leurs députés sont traités avec respect, alors, il s'engage à ne pas voter de censure. Armé de cette promesse, Emmanuel Macron réunit son premier cercle. Le secrétaire général Alexis Kohler propose alors un nom, celui d'un baron de la droite passé jusqu'à présent à côté des radars, Michel Barnier. Eh bien, pourquoi pas ? À la fois conservateur et européiste, ce Savoyard de 73 ans, ancien commissaire européen, représente le choix de l'expérience et de la sagesse. Un type rassurant, capable de rassembler la droite et le centre. De toute façon, et il faut bien le dire, à l'Élysée, on est un peu à court de solutions. Donc va pour le soldat Barnier, on n'est pas là pour rêver. Le 5 septembre, près de 3 mois après l'annonce de la dissolution, un nouveau Premier ministre est enfin nommé.
Il a fait son entrée à Matignon hier, avec déjà une montagne de dossiers sur son bureau.
Au travail,
Voilà le nouveau mantra de Michel Barnier qui reprend les rênes après 51 jours sans gouvernement. Alors, lors de la passation de pouvoir avec Gabriel Attal, il donne le ton.
Mesdames et messieurs, il y aura aussi dans cette nouvelle page des changements et des ruptures.
Pour de nombreux journalistes, c'est à n'y rien comprendre. Après la dissolution kamikaze d'un président qui prétendait incarner le nouveau monde, et alors que la gauche l'a emporté, voilà qu'un conservateur grisonnant qui a fait toute sa carrière dans la haute administration et en Europe promet le changement et les ruptures. Du côté de l'opposition, certains se demandent même si nous ne sommes pas face à un déni de démocratie. Mais le chef de l'État ne s'inquiète pas. Dans les semaines qui suivent, il se fait spectateur de l'ombre et observe avec une satisfaction distante les ennuis s'accumuler pour le nouveau gouvernement. Il y a d'abord, comme certains le craignaient, l'annonce de la dégradation du déficit public à hauteur de 50 milliards d'euros. Dans son rapport, la Cour des comptes souligne une dérive inédite et décrit une dépense en roue libre. Dans ce contexte délicat vient le vote que tout le monde redoute depuis des mois, le budget. Ou plutôt, l'absence de vote. Alors, pour tenter de rassurer l'Europe, Michel Barnier, l'ancien chouchou de Bruxelles, fait passer le budget de l'État sans avoir recours au vote du Parlement grâce à l'ineffable bouée de sauvetage nommée 49-3. Mais ce n'est pas tout. Pour arriver à l'équilibre, Barnier propose des coupes drastiques dans les dépenses sociales sans toucher aux aides accordées aux grandes entreprises, à droite toutes. Sauf que des deux côtés de l'hémicycle, cette cure d'austérité ne passe pas. Le 4 décembre, le nouveau Front populaire et le Rassemblement national votent la censure. Et c'est ainsi qu'une semaine plus tard, le 13 décembre, Michel Barnier remet la démission de son gouvernement. 3 mois à Matignon, record battu. En cette fin 2024, le constat est implacable. Avec des finances publiques hors de contrôle, une assemblée sans moteur et un président isolé dans son palais, la France ne va pas bien. Dans ce contexte explosif, un homme qui n'a plus rien à perdre franchit la grille de l'Élysée, François Bayrou. Nous sommes le 14 décembre 2024. Invité par le président pour une simple consultation, enfin officiellement, le duc du Béarn, qui a passé sa vie sur la troisième marche du podium, celle qui vous fait simple ministre, au mieux, arrive avec un plan plus macroniste que le roi, renverser la table. Dans un sursaut d'orgueil, le chef du MoDem se lance. « Je suis venu avec vous pour faire de grandes choses, pas des petites », dit-il, avant d'ajouter. « Si vous voulez faire des petites choses, alors je vous quitte. » Cette menace de sortir tous ses députés de l'ancienne majorité fait mouche. Après des décennies à ronger son frein, voici venu le temps de Bayrou.
« Je suis pas le premier à faire un long chemin. Le soir où François Mitterrand a été élu président de la République, le 10 mai 81, il y avait de la tristesse dans l'autre camp auquel je pense. » Mais ce soir où il a été élu, son premier mot, quand on lui a apporté les résultats, a été « Enfin, les ennuis commencent ».
Les ennuis commencent pour les uns et se terminent pour les autres. 4 mois plus tard, le 24 mars 2025, le plus ancien des macronistes, Alexis Kohler, claque la porte pour de bon, lassé sans doute des pulsions imprévisibles du grand chef. Hier comme aujourd'hui, valse des conseillers, coups bas et psychodrames résonnent dans les murs de l'Élysée. Dans cette tragicomédie incessante, où chaque acteur est contraint d'endosser un rôle, il y a avant tout un metteur en scène, Emmanuel Macron, qui ne cesse jamais de croire en lui. Il peut supporter un tsunami, 3 bombes atomiques, il reste toujours impeccable, pas une trace sur son costume et un grand sourire, ironise l'un de ses lieutenants. Voilà. Un coup de poker, un parlement coincé, à un personnel politique qui ne tire pas les leçons du glissement constitutionnel auquel nous assistons de facto, avec cette assemblée coupée en 3, un gouvernement pour rien, des proches épuisés, une fin de décennat présidentiel crépusculaire, tel est le bilan de cette histoire.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Dissolution, acte 2. Notre invité Jean Garrigue, bonjour.
Bonjour.
Historien, spécialiste de la Ve République et co-auteur du documentaire intitulé, tout y est, hein, Dissolution, l'histoire d'un séisme politique. On va revenir sur le séisme politique dans sa dimension politicienne, intéressante bien sûr, mais il y a surtout me semble-t-il, un choc institutionnel constitutionnel. Contrairement aux apparences, la Ve est un régime parlementaire, hein, je le disais. Pour preuve, avec les trois cohabitations qu'on a connues en 86, 93, 97, il suffit que des législatives interviennent au cours d'un mandat présidentiel et le pouvoir est transféré vers l'Assemblée, qui détermine alors la composition de l'exécutif. Mais, et j'en viens à ma question, nous ne sommes pas non plus dans un régime d'Assemblée, à l'italienne, par exemple. Alors, Jean Lerigue, où sommes-nous ?
On est dans un régime qui reste celui de la Ve République, mais dont la configuration oblige à se comporter comme on aurait pu le faire sous la IIIe ou sous la IVe. Je veux dire que le principe de la Ve République, c'est d'abord la légitimité du chef de l'État. Cette légitimité, elle est très écornée, notamment après la dissolution, mais elle l'est en fait depuis une quinzaine d'années, à mon sens. Premier point. Deuxième point, depuis 1962, le système repose sur ce qu'on appelle le fait majoritaire, c'est-à-dire que le président peut s'appuyer sur une majorité absolue à l'Assemblée pour gouverner. C'est comme ça que ça se passe. Ça n'était pas tout à fait comme ça au début. Les gaullistes devaient avoir l'appoint de ce qu'on appelait la droite libérale à l'époque, les indépendants, pour gouverner. Ils n'étaient pas majoritaires. Depuis 1962, on gouverne comme ça parce que De Gaulle pouvait se permettre de gouverner sans majorité absolue, pas ses successeurs. Et là, on se retrouve dans une situation qui a commencé à se faire à apparaître après
en
les
2022.
Élections de 2022. Absolument. On avait une majorité qui n'était pas absolue, mais qu'on pouvait raccommoder avec des bouts de ficelle, et qui ressemblait un peu à ce qu'avait fait Michel Rocard en 1988. Mais là, on se retrouve avec trois blocs d'importance à peu près égale, qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas gouverner ensemble. On est dans une situation qui n'est pas du tout celle de la Ve République, et donc il faut essayer d'acclimater, d'adapter notre fonctionnement, plutôt les élus doivent adapter.
Et nous, on vote, puis voilà.
Les ministres et le président de la République doivent s'adapter pour essayer d'avancer avec cette étrange configuration.
Comme quoi Jean-Luc Mélenchon n'a rien compris, parce qu'on a rediffusé sa déclaration à l'issue du deuxième tour, où il dit on applique le programme, rien que le programme, tout le programme, ça veut dire on ne discute pas avec d'autres, on ne cherche pas de majorité d'idées. Ça, c'est complètement 5e République, de la part d'un homme qui voulait une 6e République, soit dit au passage.
Il n'a rien compris ou il a fait semblant de ne pas comprendre.
Oui, il est intelligent, évidemment.
Le gros problème aujourd'hui, c'est que il y a cette culture, cette obsession aujourd'hui de l'élection présidentielle. Tous les calculs, toutes les négociations, toutes les coalitions se font encore aujourd'hui avec cette obsession du second tour de la présidentielle, c'est-à-dire blanc et noir. Quelqu'un qui se dégage, une forme d'homme providentiel à chaque fois, et puis une opposition binaire. On ne peut plus raisonner comme ça aujourd'hui. Il faut raisonner d'une autre manière. C'est d'ailleurs ce que dit depuis très très longtemps François Bayrou. On peut dire que François Bayrou aurait dû être l'homme de la situation, aurait dû être celui qui s'adaptait le mieux à cette situation étrange, puisqu'il a toujours prôné la coalition, le travail, la convergence entre des gens du centre, de la droite et de la
gauche. Et les sociaux-démocrates.
Et les sociaux-démocrates. Ah, bien sûr, pas toute la gauche. Le gros problème, on le voit bien, c'est que cette adaptation-là, d'abord, ça prend du temps. On voit qu'en Allemagne, par exemple, où ils ont toujours gouverné par coalition, même avec des alliances contre nature, bien souvent, mais ça se prépare. Ça se prépare d'abord par le mode de scrutin qui la proportionnelle, elle favorise justement cette préparation de la concertation, et puis par des phases de négociation sur des programmes où on peut essayer de converger, de se rapprocher. On en est très très loin aujourd'hui.
D'ailleurs, c'est la fin du fait majoritaire, parce que finalement, les résultats même du deuxième tour des législatives nous apparaissaient comme un résultat d'un premier tour, enfin d'un tour unique à la proportionnelle.
Complètement. On pourrait dire qu'on n'aurait même pas eu besoin, on n'a pas eu besoin de la proportionnelle pour arriver à cette situation. Et ma conviction, et beaucoup la partagent, c'est que cette situation de tripartition, en tout cas des trois blocs, à laquelle il faut ajouter la fragmentation en 11 groupes parlementaires qu'on n'a jamais vu sous la Ve République. Cette tripartition en trois blocs est quelque chose qui est appelé à durer, parce que je pense que ça correspond profondément à une tripartition de l'électorat, c'est-à-dire de la société française, de plus en plus fracturée, émiettée. Vous avez un bloc central de seniors qui sont plutôt dans une bonne situation financière et qui veulent un peu de la sécurité, un peu de progrès, etc. Ils vont continuer à voter comme ça. Vous avez une droite identitaire, sécuritaire, qui attire de plus en plus de monde. Et puis vous avez de l'autre côté une gauche qui retient une culture de la protection sociale, une culture du progrès social, et qui va toujours conquérir et séduire une partie de l'électorat. Donc on n'est pas prêt, à mon sens, de sortir de cette configuration. Alors ce que pense nos chers hommes politiques, c'est que par la grâce de leur talent, du charisme de tel ou tel, ils vont pouvoir faire exploser tout ça et revenir à ce fameux fait majoritaire, la prochaine élection présidentielle de 2027. C'est pour le moins, pour l'instant en tout cas, on peut le remettre en question.
France Inter. Affaires sensibles.
Jean Garry, je voudrais continuer avec vous sur le cadre constitutionnel, institutionnel, parce que c'est une dimension vraiment importante qui est un peu occultée par le côté politicien. On a toujours un président élu au suffrage universel qui lui confère une légitimité énorme, quoi qu'il en soit. Mais est-ce que là, on est en train de passer d'une verticalité à un semblant, au moins, d'horizontalité du pouvoir ?
Déjà, il y a quelque chose de tout à fait exceptionnel qui s'est produit sous la Ve République, c'est la nomination de François Bayrou, que vous avez rappelé. C'est-à-dire que, pour la première fois, on peut dire que le Premier ministre s'est imposé au président de la République, qui voulait prendre quelqu'un d'autre, Sébastien Lecornu, c'est très clair, et lui dit, mais si tu prends Lecornu, tu perds ta majorité, qui est déjà très fragile, tu perds le MoDem. Ça, c'est quelque chose qui, en soi, est intéressant, et surtout qui est le symptôme de la fragilisation du président de la République. C'est-à-dire qu'on est obligé aujourd'hui de prendre en compte ce fait, c'est qu'on a un président, alors d'abord parce qu'il est en fin de mandat, parce qu'il y a l'érosion des deux quinquennats, etc., mais surtout parce qu'il est très délégitimé dans l'opinion publique, et que la dissolution n'a pas arrangé les choses, on a un président qui, en réalité, est faible. Un président faible ne peut pas exercer une présidence forte, ne peut pas exercer une présidence jupitérienne. Il doit laisser beaucoup plus de marge à son Premier ministre.
Donc moins vertical.
Ah, il doit être beaucoup moins vertical. Maintenant, les institutions, le fonctionnement des institutions lui permet cette verticalité. Ça veut dire qu'il faut aussi interpréter les institutions, jouer le jeu institutionnel d'une certaine manière. Mais c'est ce que faisaient beaucoup de ses prédécesseurs, à commencer par le général de Gaulle. Le général de Gaulle laissait beaucoup de marge de manœuvre à Michel Debré et à son premier ministre, et puis ensuite à Georges Pompidou. Quand Georges Pompidou a pris trop de place, il l'a remis à sa place et l'a fait démissionner en mai 68. Mais il laissait quand même une marge de manœuvre importante. Il faut absolument qu'on retrouve ça, c'est-à-dire que l'hyper-présidence, la présidence jupitérienne, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Mmh. Ça ne fonctionne plus parce que les Français ne veulent plus de cette hyper-présidence, d'une, et parce que les Français aussi ont découvert, malgré tout, qu'ils avaient une Assemblée nationale et un Sénat, et qu'il fallait bien que ça serve à quelque chose, qu'ils jouent ce rôle de contre-pouvoir.
Et alors ça nous renvoie, pour le coup, à une certaine nostalgie qui peut paraître surprenante, de la cohabitation. Parce que, à partir du moment où une législative en plein milieu du débat présidentiel, c'est un vrai rapport d'étape, et les Français peuvent dire stop, ou encore.
Exactement. D'ailleurs, au lendemain des élections de 2022, des enquêtes avaient été faites, et les Français réclamaient précisément cette cohabitation.
Oui.
Ils avaient élu Emmanuel Macron comme président, mais ils souhaitaient qu'à l'issue des élections législatives qui suivaient, on soit dans une configuration telle qu'il y ait au fond quelqu'un qui soit le représentant de l'opposition face à Emmanuel Macron. Alors la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas une opposition. On en a deux.
Oui.
Et deux qui sont très différentes. Même du temps de ce qu'on appelait la bande des quatre, l'opposition, c'était les socialistes et les communistes.
C'était bipolaire, de toute façon.
Ils étaient différents, mais ils étaient quand même...
comme la droite,
voilà.
Entre les gaullistes et les libéraux.
Exactement, comme les gaullistes et les libéraux. Aujourd'hui, c'est quand même ça devient beaucoup plus compliqué. Ce qui veut dire qu'à un moment ou un autre, il faut qu'à l'intérieur de chacun de ces trois blocs, se détachent des sous-blocs ou des sous-parties pour essayer de faire, c'est un peu comme de la géométrie, hein, d'essayer de se raccorder à d'autres. Il y a de nouvelles pratiques à absolument trouver, et notamment, il faut que le président de la République, à mon sens en tout cas, se retranche sur sa fonction de représentant de tous les Français, non plus de chef d'une majorité, parce que de facto, avec cette subordination des élections législatives qui suivent l'élection présidentielle, il est...
C'était un chèque en blanc pour 5 ans.
Exactement. Et il est un président, en plus, de majorité. Il n'est plus le président de tous les Français. Donc ça, c'est évidemment très, très, très nuisible à notre démocratie.
Une présidence à l'italienne, par exemple, qui ne fait pas inaugurer les chrysanthèmes. Hein.
Exactement. Mais comme d'ailleurs, contrairement à ce qu'on croit, les présidents de la 3e République ou de la 4e République ne faisait pas qu'inaugurer les chrysanthèmes et, contrairement à ce qu'on peut croire aussi, était très souvent beaucoup plus populaire, mais authentiquement populaire, que nos derniers présidents de la 5e.
Alors, au bout du bout du bout du compte, est-ce qu'on sort de la 5e République subrepticement ?
Moi, je pense qu'il faut rester dans la 5e République, qui a suffisamment de souplesse en elle, de capacité d'adaptation pour nous permettre de continuer. Parce que les Français aujourd'hui sont quand même attachés à l'élection du président au suffrage universel. Ils sont attachés en même temps à la démocratie parlementaire, exactement, c'est-à-dire que le gouvernement doit être responsable devant l'Assemblée nationale. Donc, je ne vois qu'une solution, c'est qu'on redéfinisse les périmètres des uns et des autres, et surtout que celui du président se rétracte, qu'il devienne, je le répète, qu'il se concentre sur ce qu'on appelle le domaine réservé, ce que le général de Gaulle faisait d'ailleurs, les affaires étrangères, la défense, qu'il laisse son premier ministre gouverner, parce que le Premier ministre, lui, il est responsable devant l'Assemblée. Mmh. Si vous donnez plus de pouvoir au Premier ministre, vous donnez plus de pouvoir à l'Assemblée, à charge pour les différentes parties qui sont représentées à l'Assemblée, de trouver des manières de fonctionner un peu sur le modèle de tout ce qui se fait ailleurs en Europe et qui, quand même, a donné de bons résultats.
Et évidemment. Alors, il me reste quand même une minute pour une question plus politicienne que j'ai posée à mon invité d'hier dans le volet 1 de l'histoire de cette cohabitation. À votre avis, qu'est-ce qui a motivé Emmanuel Macron, quelle mouche l'a piqué ?
Il y a plusieurs hypothèses, mais je me demande si, pour en avoir plus ou moins discuté avec lui, au détour d'une phrase, si au fond... il n'était pas arrivé à un moment de se dire « laissons gouverner le Rassemblement National ».
Ah, ben oui, c'est l'une des hypothèses.
Les élections peuvent amener le Rassemblement National à gouverner. Faisons cette expérience. Cette expérience sera un échec et j'en sortirai grandi.
Est-ce qu'il y avait aussi, selon vous, une réaction genre péché d'orgueil après la claque des Européennes ?
Là aussi, c'est incontestable, connaissant l'hubris présidentielle, il y a sûrement eu cet effet-là. Il y a eu aussi la volonté de faire un peu oublier, justement, l'échec immédiat des élections européennes. Mais il y a eu, surtout et essentiellement chez lui, la volonté de rester le maître du jeu. Voilà. On a perdu une bataille, mais je reste le maître du jeu. C'est moi qui fixe le calendrier, c'est moi qui fixe les échéances, et j'en sortirai à un moment ou un autre. Comme je viens de le dire, j'en sortirai grandi. Pour l'instant, le pari a plutôt été manqué.
C'est le moins qu'on puisse dire. Merci infiniment.
Merci
Jean-Garry.
À vous.
Au revoir.
Merci.
Et Affaires Sensibles aujourd'hui, la dissolution de juin 2024, l'Aftershock, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. Merci à Alice Christophe qui était à la technique aujourd'hui.